Pour moi, c'est un film aussi sur la mémoire palestinienne et sur la dignité des palestiniennes, des femmes palestiniennes. Et j'ai choisi ces trois femmes parce qu'elles gardent une certaine dignité que je n'ai pas trouvée chez les autres femmes. Elles ont tout perdu, socialement. Leur maison, leur village, elles ont été réfugiées souvent. Mais elles ont gardé une certaine dignité que je voulais que ça passe au public israélien. Cette dignité chez les femmes palestiniennes. Donc c'était très important pour eux de transmettre cette dignité. C'était comme si c'était une dernière chose qu'ils pouvaient faire avant que le cirque vicieux se ferme sur eux-mêmes. C'était comme une dernière voie de demande de sauvetage, quoi. Mais ce film a été fait en coproduction avec eux. Je ne peux pas dire que c'est seulement mon film, c'est leur film aussi. Ça a été fait parce que tous les deux, on a eu une grande amitié, presque une histoire d'amour avec ces trois femmes. Et ce film est un résultat de cette relation, mais aussi d'un dialogue qui existe entre Israéliens et Palestiniens depuis 20 ans, qui est très mal connu en Europe. Et encore très mal connu en Suisse.
Sur nos ondes, on les connaît, je peux vous dire.
Comment ?
Sur nos ondes, sur Radio Zone et Ondes Femmes, on les connaît parce qu'on leur donne souvent la parole.
Mais pas dans les chaînes publiques et pas dans la presse écrite. Hein.
C'est vrai.
La presse écrite, elle cherche tout ce qui est action, j'ai pas le nom en français, mais qui fait du bruit. Mais c'est un dialogue qui existe entre femmes israéliennes, les femmes noires israéliennes, qui font beaucoup de manifestations, avec beaucoup de femmes palestiniennes, paix maintenant. There is a limit, il y a une limite, un groupe de soldats israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés, dont j'étais un des débutants après la guerre de 73. J'ai refusé de servir dans les territoires, j'ai fait la prise en la place. Mais il y a un grand dialogue, et nous, ça nous fait mal, à nous, aux Palestiniens, aux Israéliens, qui n'est pas reconnu par l'Europe. Ça n'existe pas. Seulement quand Peres est là avec Arafat, Davos, c'est là qu'on commence à en parler.
Mais donc, pour conclure, ces femmes, elles interrogent tout autant la société israélienne que leur société.
Tout à fait.
Est-ce que les gens ont réagi comme ça quand vous avez pu passer le film dans les territoires occupés à Gaza, par exemple, d'où ils viennent ? Est-ce qu'il a été montré ?
Il a été montré, le film a été montré en Israël, mais il a été aussi montré dans pas mal de places dans les territoires occupés, dans le théâtre Al-Hakawati. Il circule en cassette vidéo dans tous les camps de réfugiés. Il n'y a pas de droit d'auteur là-bas, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde se fait une cassette. Beaucoup de gens l'ont vu dans les territoires occupés. Par rapport à ce qu'il a fait aux Israéliens, c'est... Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait aux Israéliens. Pas mal d'Israéliens se sont demandé la question. C'est nous qui avons fait ce truc-là. Le sentiment de culpabilité commence à monter. Et c'est très important, parce que c'est là que peut-être un dialogue peut commencer. D'un autre côté, la femme, la paysanne, que je trouve, pour moi, c'est la plus importante femme dans le film, elle dit l'honneur de la terre est plus important que l'honneur de femme. Les hommes palestiniens, les islamistes palestiniens, ont trop utilisé l'histoire de l'honneur de la femme pour mieux occuper les femmes eux-mêmes, c'est-à-dire pour les garder dans la cuisine. Attention, ne sortez pas dehors, ne faites pas tel et tel. Les hommes, les soldats israéliens vont vous voir, vont peut-être vous violer, et donc vous n'avez pas le droit à vivre, à exister, à être égal. Et cette paysanne, qui est une femme très très simple mais très philosophe, dit non, il faut arrêter ces discours, ces slogans, ce mensonge. Il faut commencer à penser à l'honneur de la terre. C'est là qu'on aura l'honneur de la femme.
Eh bien, David Belchetri, j'espère que votre film a encore une longue histoire, parce que visiblement, ceux dont il parle, on doit encore beaucoup en discuter, que ce soit chez nous, que ce soit chez vous, que ce soit chez les Palestiniens. Merci beaucoup. Alors voilà, Fribourg à Fribourg, dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone, c'est terminé. Bientôt, ce sera Fribourg à Genève. Nos invités sont arrivés et je vous rappelle juste avant que nous commencions à discuter avec elles que donc le Festival de Films de Fribourg, c'est jusqu'au 6 février, qu'à Genève, ce sera du 10 au 20 février au CAC Voltaire, qu'à Lausanne, c'est du 4 février au 20 février au cinéma Bellevaux ou à la Cinémathèque Suisse. Et si vous avez besoin d'informations, il vous suffit d'appeler le 037 22 22 32. Et vous aurez Dominique de Riva au téléphone, que vous avez entendu sur ces ondes, qui est donc l'attaché de presse du festival. Vous pourrez rencontrer des réalisateurs, deux réalisatrices, comme vous l'a précisé Dominique de Riva, si jamais vous allez au festival lui-même. Et puis voilà, peut-être que vous croiserez Chantal Esseva dans les couloirs et que vous pourrez lui dire ce que vous pensez de son affiche. Voilà quelles étaient les personnes qui ont discuté avec nous aujourd'hui de Fribourg à Fribourg et du Festival de films de Fribourg. Ah, encore juste un mot. Le fameux débat dont vous parlez aussi, Dominique de Rivaux, il a pour titre « Le devoir d'irrespect, le cinéma à quoi bon ?» et qui fait référence à tout ce qui se passe en Algérie, les intellectuels qui subissent des coups de l'obscurantisme, au Brésil les enfants qui disparaissent, en Bosnie, et bien évidemment des populations victimes des délires nationalistes, en Afrique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. La violence politique qui tient lieu de raison d'État. Et nous, dans tout ça, sommes-nous réellement impuissants ? Comment dépasser les chastes notes d'intention, les belles paroles qui se perdent sur les ondes? Que faire? Comment agir? Il doit y avoir quelque chose à faire. Et donc, le Festival de films de Fribourg vous propose de réfléchir à tout cela ensemble à Fribourg, demain, de 17h30 à 18h, ou 19h, pardon, 17h30 à 19h, au cinéma Rex numéro 3. Et ou bien vous pouvez bien sûr écouter sur les ondes de notre grande concurrente, si vous ne pouvez pas vous rendre directement à Fribourg.
Nous les filles, nous ne savons plus, nous ne savons plus quoi inventer pour vous garder. Nous ne savons plus sourire, nous ne savons plus quoi dire. Oui, les filles, il faudrait changer. Doubidou, choudoubidoubidou,
il nous avait pourtant dit.
Eh bien, ça, c'est les Gams. Vous les connaissez certainement pas, ça m'étonnerait. Mais enfin, c'est des chanteuses qui chantent du rock. C'était les années 63-64. Et comme ça, histoire de tourner la page entre Fribourg et Fribourg-Genève, Fribourg-Fribourg et Fribourg-Genève, eh bien, un petit air de rock'n'roll. Nous sommes maintenant avec nos invitées fribourgeoises, mais qui sont à Genève. Bonsoir Anne-Laure, bonsoir Jacqueline.
Bonsoir.
Et qui sont Anne-Laure Vielli et Jacqueline Corpato? Ce sont les deux comédiennes du Théâtre de l'Écrou. Théâtre de l'Écrou qui nous propose un spectacle en ce moment au Théâtre de Saint-Gervais et qui dure encore jusqu'au 13 février. C'était déjà depuis le 27 janvier, donc il y a déjà un certain nombre de rencontres avec le public genevois. Il me semblait important, quand on a Fribourg à nos portes, de donner la parole et pas simplement d'aller voir ce qui se passe à 100 et quelques kilomètres de là. Alors, Jacqueline et Anne-Laure, le Théâtre de l'Écrou a une démarche particulière. Vous êtes d'abord les deux membres de ce théâtre, fondatrice et membre.
Oui, c'est ça.
C'est ça la base.
On est toutes deux comédiennes et puis en même temps, on gère cette troupe depuis 87 maintenant.
Voilà. Mais il y a un parti pris très spécial de votre troupe qui est celui, entre autres, d'intégrer à cette troupe permanente qui est formée de vous deux,
oui,
entre autres, les metteurs en scène ou les metteuses, je ne sais pas si vous en avez eu, en scène de vos spectacles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche particulière propre au Théâtre de l'Écrou?
Bien, effectivement, Anne-Laure et moi, qui sommes le noyau de base de cette troupe, grossissons et maigrissons en fonction du spectacle.
Jolie image.
On aime bien s'entourer parfois de gens. D'abord, je voulais peut-être expliquer que il nous arrive de jouer des spectacles à deux, comme celui-là, comme Je veux t'aimer toucher. Il y a eu également Le Moine, que nous avons joué à deux. Il y a eu Un fauteuil devant la mer. Et puis, en dehors de ça, il y a eu d'autres spectacles. On invitait metteurs en scène et comédiens d'horizons divers, ça c'est la formule consacrée, parce qu'effectivement, ça part souvent à la base d'envie, comme ça, de rencontre, d'envie de travailler avec quelqu'un. Vous savez bien comment parfois il y a des coups de cœur qui se passent, on se dit qu'il y a une démarche qui serait possible de partager avec quelqu'un. Eh bien, quand ça se trouve et quand on a le désir de travailler avec quelqu'un, on l'invite chez nous et puis on se le kidnappe comme ça pour faire un travail ensemble.
Comment ça se passe en général? Vous avez-vous une idée de spectacle comme celui dont nous allons parler tout de suite. Un thème, cette fois-ci, c'était le monde carcéral à partir de lettres de prisonniers ou de prisonnières. Donc vous avez une idée de départ, puis ensuite vous trouvez la personne qui va faire la mise en scène, ou bien c'est la personne qui vous avec qui ça vous intéresse de travailler qui vous entraîne dans un sujet.
Il n'y a pas de méthode fixe. Il y a eu effectivement l'envie de travailler d'abord avec quelqu'un, et puis on trouvait ensemble la possibilité de faire un travail de recherche à 3 ou à 4 ou à 5, ou bien tout à coup il y avait un thème, c'est le cas pour les lettres d'amour de prisonniers, et puis on se dit, est-ce que vous seriez d'accord avec nous de travailler là-dessus?
Et alors comment a réagi Joëx Coffier, puis c'est de lui qu'il s'agit, Joëx Coffier, journaliste qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est le monde culturel et en même temps ex-comédien, comment a réagi Joëx Coffier quand vous lui avez proposé ce thème, les lettres d'amour de prisonniers, le monde carcéral?
Joëx Coffier est quelqu'un qui adore le théâtre, qui en a fait lui-même, qui a pris une assez grande distance avec le théâtre puisqu'il a été journaliste pendant plusieurs années. Il y avait donc au départ une petite envie, certes, mais une petite réticence aussi au fait de s'engager comme ça de nouveau dans un travail théâtral, mais qui a bien vite été surmonté parce qu'il nous a montré, il nous a prouvé qu'il avait envie et le désir de revenir au théâtre.
Je crois que oui, ce qu'il a tenté avant tout, c'était les lettres qu'on a reçues, qui sont de superbes lettres. Ce qu'il nous a demandé avant tout, c'était de pouvoir lire ces lettres. Et une fois qu'il les a lues, il nous a dit « Ok, ça m'intéresse ».
Alors là, j'apprends quelque chose de fondamental, c'est qu'avant de contacter celui qui allait être votre metteur en scène, vous aviez déjà fait un travail très important, qui était déjà la rencontre, ou en tout cas le contact, parce qu'on ne peut pas vraiment dire rencontre, je crois, mais contact avec les prisonniers qui allaient vous confier leurs lettres. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette démarche? Parce que peut-on juste camper un tout petit peu la situation de départ? Si je me trompe, vous me corrigez. Donc, vous avez envie de travailler sur le monde carcéral à partir de lettres d'amour de prisonniers et vous faites des démarches hyper concrètes comme celle de faire passer des messages à la radio, Et d'écrire des lettres dans les différents, comment on appelle ça, différentes prisons de Suisse, voilà, romande, je ne sais pas si c'est que romande, pour justement tenter de créer des contacts avec les gens qui sont en prison et qui peut-être seraient d'accord de vous confier leurs lettres d'amour. C'est comme ça que ça s'est passé?
C'est tout à fait comme ça, oui. On a contacté les assistants sociaux avant tout, hein, parce qu'on s'est dit comment joindre les prisonniers directement, c'est pas évident dans une prison, il y a une grande hiérarchie et si vous frappez tout de suite à la porte du directeur, c'est pas évident de le joindre non plus. Alors on vous renvoie aux assistants sociaux qui eux sont proches des prisonniers, qui nous ont écoutés, et par exemple à Bossu, qui nous ont invités à être filmés, à être interviewés par le canal déchaîné, qui est la télévision interne de Bossu, où deux détenus nous ont posé des questions. Pourquoi est-ce qu'on s'intéressait à eux? Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces lettres? Pourquoi des prisonniers? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas du voyeurisme? Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces lettres, quoi?
Et vous vous attendiez à ce genre de réaction quand
tout
même?
Tout à fait, bien sûr. Et c'était important pour nous d'affirmer ce qu'on voulait faire et de leur dire surtout qu'on voulait leur donner une plage d'expression pour que leurs paroles soient écoutées hors outre-mur.
Alors, on a eu droit en tant que spectateurs et spectatrices à justement lire les quelques mots que vous leur avez adressés parce que vous avez publié cette lettre dans le programme. Est-ce que vous seriez d'accord de nous en lire quelques pages ou quelques lignes ou quelques extraits? Je ne sais pas ce que vous choisirez de faire. Parce que je crois que c'est important de voir comment vos mots au travers d'une lettre, et là vous avez utilisé aussi la lettre pour communiquer, c'est intéressant, comment vos mots vont finalement toucher les prisonniers puisque beaucoup d'entre eux vont vous envoyer des lettres.
Ah oui, alors je vais en prendre un extrait. Adressé donc aux prisonniers incarcérés en Suisse romande. Trois petits points. Toutefois, point de voyeurisme. Notre désir n'est pas de donner en pâture à des spectateurs l'intime émotion de femmes et d'hommes captifs, mais bien au contraire de constituer un terrain favorable à l'expression de personnes dont la parole n'est pas souvent entendue à l'extérieur des murs de la prison. Alors, pourquoi des lettres d'amour? Parce qu'une lettre reste un moyen privilégié pour établir un lien avec celui ou celle qui nous manque. Et qu'une lettre peut tout contenir, du plus quotidien et banal à l'émotion sincère et authentique. Parce qu'un message d'amour est un appel, un cri de vie qui concentre toutes les énergies qui persistent encore dans un être humain, même privé de sa liberté. Notre spectacle constituerait une vague de désirs où flotteraient bouteilles à la mer autant de messages qui ne demanderaient qu'à être lus et entendus. Notre envie de nous exprimer dépend de votre besoin de parler, alors échangeons nos mots.
Et ils vous ont entendu et ils ont accepté d'échanger les mots. Et vous avez reçu beaucoup de lettres.
On a reçu environ... nous avons en fait gardé des lettres qui émanent de 11 personnes dans le spectacle. Alors, il y a eu effectivement, durant le spectacle, il y a une sorte de ligne continue, ce qu'on appelle notre fil bleu, parce que les lettres sont bleues. Ces lettres émanent d'un détenu qui a vécu un an et demi dans le pénitencier de Bellechasse, à côté de Fribourg, et qui a écrit, lui, une correspondance, qui a eu une correspondance avec sa femme extrêmement dense, puisqu'il lui écrivait plus de 800 lettres durant un an et demi. Et lui, nous ne l'avons pas contacté d'emblée. Comme disait Anne-Laure tout à l'heure, il faut passer une barrière administrative et ce sont les assistants sociaux qui nous ont conseillé de lire les lettres de cet homme parce qu'ils trouvaient que cette correspondance amoureuse en valait la peine. Et c'est à partir de là, toujours par l'intermédiaire des assistants sociaux, que nous l'appellerons Jean, nous a confié les lettres, certaines des lettres qu'il a écrites à sa femme. Et ça, c'est le plus gros lot de lettres que nous avons dans ce spectacle.
Vous avez joint à ces lettres authentiques que vous avez reçues un certain nombre de lettres de poètes, d'auteurs qui se sont aussi trouvés dans la situation d'être incarcérés. C'est par exemple Albertine Sarrazin, Václav Havel.
C'est Roger Knobelspies.
Et Nazik Hamet, c'est
et
ça
Nazim Hikmet, oui.
Nazim Hikmet, oui. Mon Dieu. Voilà. Alors, peut-être on peut juste camper le décor, parce que je crois que ça a une certaine importance dans la mesure où comment imaginer que des lettres, transmettre le contenu de lettres en termes d'expression théâtrale, comment ça va se faire? Parce que l'image première qu'on a, bien sûr, c'est plutôt quelqu'un qui est assis à ta table et qui écrit, ou bien quelqu'un qui est assis, vautré, debout, je ne sais pas quoi, qui lit. Ouais. Hein, on imagine mal quelque chose de très théâtral autour de l'être. Et déjà, rien que dans le décor, on pourrait donner une image à nos auditrices et nos auditeurs, oui. Il y a déjà quelque chose qui traduit comment vous avez voulu, avec Joël Escoffier, traduire, théâtralement parlant, ces lettres pour les spectateurs. Alors, imaginez-vous, vous avez des grilles sur lesquelles sont accrochés, installés deux bureaux. Au début du spectacle, deux femmes sont là, en blouse bleue de travail. Le bruit de leurs talons martèle le sol quand elles circulent d'un endroit à un autre. Elles lisent des lettres et elles tamponnent sans arrêt, agrafent, enfin, des bruits de bureau. Une sonnerie retentit et elles vont enlever leur veste, quitter l'endroit où elles travaillent. Afficher au mur un panneau, article 54. Les lettres écrites pour les détenus et celles qui leur sont adressées sont soumises au contrôle de la direction. Nos femmes sont donc la censure, le contrôle. Et puis, des casiers complètement banals, banaux, qui sont là fermés, mais qui deviennent magiques lorsque la lumière se transforme complètement. Nos femmes se transforment aussi, elles s'habillent, elles se maquillent, elles se décorent. Et elles vont commencer à lire en ouvrant un premier casier. Et là, on découvre des merveilles. Une scène de mariage, une fenêtre tout petite avec des barreaux. Un mur sur lequel qui a été graffité, où il y a une boîte à musique. On découvre une forêt avec deux petites tasses de thé. Et bref, je ne vais pas tout vous dire, c'est à vous d'aller découvrir. Mais chacune de ces boîtes contient la lettre, celle qui sera lue sur le moment, ouverte au fur et à mesure par les deux comédiennes. Alors, quel est votre parti pris théâtral avec ce décor-là?
C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un récital de lettres. Donc, on s'est dit qu'il fallait choisir des personnages qui ne soient pas non plus les prisonniers en question. Ou les prisonniers. Donc, on a décidé qu'on serait deux femmes, deux administratrices de la prison qui lisaient, qui faisaient la censure des lettres et qui, après leur travail, avaient collectionné les plus belles lettres d'amour et se faisaient un rituel. Et c'est pour ça qu'elles s'habillent, c'est pour ça qu'elles vont ouvrir tous les casiers administratifs, comme si elles ouvraient l'âme du prisonnier et qu'elles y trouvent tous ces objets qui sont des objets intimes et qu'elles arrivent à dire ces lettres en s'imaginant être la femme qui reçoit la lettre ou en s'imaginant être le prisonnier lui-même. Et les mots vont passer comme ça, sans qu'elles rajoutent leur affectivité personnelle.
Dans un deuxième temps, ces casiers sont bien évidemment aussi toutes les portes ouvertes aux mots, aux paroles, toutes les possibilités de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, puisque bien évidemment, tout au fond d'une cellule, les cris ont du mal à traverser les murs. Et c'était notre envie aussi de faire parler ces hommes et ces femmes qui croupissent quoi, à l'intérieur de murs. En même temps, c'est donner... Par l'imaginaire que ces deux femmes, auxquelles ces deux femmes ont laissé libre cours, en créant eux-mêmes, elles sont censées avoir créé eux-mêmes toutes ces petites cases, tous ces petits casiers qui deviennent effectivement des concentrés de poésie. C'est aussi leur propre enfermement dont elles s'échappent. C'est aussi cette possibilité qu'elles ont. Sont-elles elles-mêmes plus ou moins en proie à un enfermement intérieur? Sont-elles elles-mêmes, manquent-elles elles-mêmes d'épanouissement? Tout ça est possible. Mais il n'empêche que par ce petit rituel, elles donnent à l'imaginaire aussi la possibilité de s'évader. Par leur imaginaire aussi, elles se donnent la possibilité de s'évader de leur fonctionnariat et de leur vie réglée et carrée quotidienne.
Donc vous ne craignez pas d'opposer le vrai enfermement entre quatre murs avec l'enfermement dû à une pauvreté intérieure ou une tristesse intérieure ou je ne sais à quoi nous sommes confrontés souvent dans
notre vie aujourd'hui. Il existe ce parallèle-là. Chaque spectateur fera sa petite interprétation de ça. Mais effectivement, moi je suis persuadée qu'il y a des choses à faire, des parallèles à faire par rapport à ça.
Une petite question très très personnelle. Comment vous, Jacqueline et Anne-Laure, vous vous situez par rapport à ces lettres, vous qui les lisez, qui les vivez? Parce que malgré tout, vous donnez une interprétation pas neutre du tout. Vous n'êtes pas là simplement des lectrices.
Non, on s'approprie ces mots, oui.
Voilà.
Tout à fait.
Comment vous vous reconnaissez dans ces lettres qui sont dans l'immense majorité des lettres d'hommes? En tout cas, personnellement, j'y ai très peu reconnu des lettres de femmes.
Parce que la plupart des lettres que nous avons reçues sont des lettres d'hommes puisque la prison de Launay venait de s'ouvrir et qu'il était trop tôt pour demander aux prisonnières de faire une démarche comme ça. Donc on a reçu les trois quarts des lettres du spectacle sont issues de prisonniers, et à part une femme de Fribourg et à part Albertine Sarraza qu'on a rajoutée. Comment est-ce qu'on y perçoit, nous ? C'est-à-dire qu'on est porté par ces prisonniers, justement, qui sont derrière nous et dont on sert de porte-parole, quoi. Ça nous donne une autre fonction. Et du coup, c'est important à chaque représentation. C'est un spectacle qui nous est peut-être plus important qu'un autre. On a l'impression de toucher à quelque chose qui dépasse le théâtre.
C'est vrai qu'il y a une démarche humaine là derrière qui dure maintenant depuis un an et demi. Je crois qu'on ne se rendait pas du tout compte quand on a eu cette idée, Anne-Laure et moi, à quoi on serait confrontés. Jamais un spectacle n'a suscité autant de réactions, par exemple, autant de la part du public. Les gens, en général, ne restent pas indifférents par rapport à ce spectacle. Bien évidemment, je veux dire, il est difficile de rester indifférent à ces mots-là. Mais en même temps, on touche à un sujet difficile. La prison est encore quelque chose qui, pour la plupart des gens, reste extrêmement ambigu. On ne sait pas comment se situer. Ça reste des êtres humains, mais quand même, ils ont fait du mal. Parfois, entendre des mots d'amour, oui, mais émanant quand même d'hommes et de femmes qui méritent cette incarcération. Il y a une vraie ambiguïté par rapport à tout ça. Et c'est très bien que ce spectacle se nourrisse de tout ça aussi. Donc c'est vrai que ça fait un an et demi là qu'une démarche est riche pour nous, d'avoir rencontré certains des prisonniers qui nous ont confié leurs lettres, d'avoir été un peu plus confrontés à la prison pour y avoir visité certaines, d'avoir entendu pas mal de choses autour du milieu carcéral et autour de gens qui sont contre les prisons ou qui sont pour les prisons. Tout ça, ça nous nourrit terriblement de l'intérieur aussi.
Et vous, de vous substituer à des hommes dans vos sentiments, ça vous fait quoi ? Parce que c'était un petit peu aussi ça le sens de ma question.
Oui.
Ce qui m'a frappée, c'est que quelque part, des moments, j'ai ressenti le manque de brusquerie, de brutalité, de force masculine dans la façon dont vous lisiez vos textes. Et je me disais, mais comment elles font pour s'identifier à un homme lorsqu'elles lisent ces lettres ?
On garde quand même la distance de la lecture. Ou la distance de cette administratrice qui se fait un rituel.
Oui, bien sûr.
On ne met pas justement toute notre affectivité qui pourrait être parasite. On essaye de donner les mots tels qu'ils sont.
Puis j'ai l'impression aussi que le manque, l'enfermement, l'isolement, la révolte, le désir sexuel n'est pas proprement masculin. Hein. Il y a une femme aussi qui écrit là-dedans, qui est Albertine Sarrazin, qui crie aussi son manque de l'autre. Même si les mots ne sont pas pareils, ce sont les formes qui changent. Le fond est pareil, le fond est le même.
Ça, j'en suis persuadée.
Oui.
Mais effectivement, je me demandais si la forme ne serait pas différente. Et c'est étonnant parce que je disais justement, j'avais eu de la peine à reconnaître les lettres de femmes, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et ça veut dire que justement, il n'y aurait pas de forme différente lorsqu'on doit exprimer son espoir de l'extérieur ou sa révolte de l'intérieur, parce que les lettres oscillent du désespoir à l'espoir, du romantisme à la révolte.
C'est fait de rupture en permanence. Voilà. C'est fait de rupture en permanence.
Donc on pourrait se dire que peut-être les femmes n'expriment pas autre chose que les hommes dans ces moments-là.
Peut-être.
Ou pas autrement que les hommes.
Oui, c'est possible. C'est peut-être un endroit où on peut se rejoindre.
Hélas, nous avons très peu de temps pour finir. C'est bien dommage. On a un temps vraiment trop court. Mais il y a une dernière chose que j'aimerais bien que vous racontiez en quelques mots. C'est ce que vous avez demandé. Je crois que vous aviez, entre guillemets, un contrat avec les prisonniers. Ils ont tenu à ce que vous filmiez la première de votre spectacle à Fribourg, qui était donc au Théâtre du Stalden à Fribourg. Pourquoi cette demande ?
On n'a pas pu filmer. Hein. La première, c'était trop difficile. Par contre, ils ont tenu à ce qu'on filme les réactions du public avant la représentation, après la représentation. Et en plus, on nous a posé des questions à nous aussi. Ils avaient besoin justement de voir ce que leurs mots avaient porté à l'extérieur. Quelle était la réaction des gens, s'ils étaient acceptés, s'il y avait du monde d'abord qui viendrait voir ces lettres d'amour, écouter ces mots d'amour. Et pour eux, c'était une façon de se relier à l'extérieur aussi, de vivre ça avec nous. Mais du reste, on va les jouer en prison à Beauchut le 18 février et à Bellechasse le 19 mars.
Et là, qu'est-ce que vous ressentez à cette idée ? Ça va être autre chose que d'être dans un théâtre, là, cette fois-ci.
Oui, ça va être autre chose, effectivement. Ben, je crois qu'on va ressortir de là de toute façon encore plus nourri, ça me paraît clair. Mais, moi, je ne m'attends à rien. Je peux simplement dire que je me réjouis vraiment de vivre ça, parce que je trouve que c'est un aboutissement juste à cette démarche. D'ailleurs, eux-mêmes nous l'ont demandé, les prisonniers de Bochum ont demandé qu'on aille jouer chez eux. C'est donc bien que ça a sa place là-dedans. Mais je ne veux pas trop me réjouir non plus parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Vont-ils trouver ça juste, pas juste ? Vont-ils trouver ça fabriqué, artificiel, pas artificiel ? Je peux simplement dire qu'il y a certains détenus qui sont venus nous voir et qui trouvaient que le ton du spectacle, avec les cassures et les ruptures permanentes auxquelles sont en proie les détenus dans une cellule, semblait juste pour lui. Tant mieux, mais voilà, c'est le constat que je peux faire aujourd'hui.
Je vous remercie toutes les deux très vivement d'être venues pour un si court moment jusque dans nos studios en direct. Nous rappelons que vous jouez donc jusqu'au 13 février, les mercredis et jeudis à 20h30, le vendredi et samedi à 19h et le dimanche à 17h30, que c'est au Théâtre de Saint-Gervais à Genève et que si vous voulez réserver, il le faut parce qu'il y a très peu de place dans la salle, c'est le 022 732 20 60. Merci Anne-Laure, merci Jacqueline.
Merci.
Remue-ménage, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le témoignage d'une femme philippine.